Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Géopolis, votre émission qui explore les ordres et désordres du monde.
Bonjour et bienvenue dans cette édition de Géopolis dans laquelle nous allons aujourd'hui évoquer l'actualité en Russie marquée en ce début 2022, notamment par une intervention militaire au Kazakhstan, pays qui connaît des troubles violents, et par des tensions persistantes à la frontière ukrainienne sur fond de mouvements de troupes qui inquiètent l'Europe et la communauté internationale. Une rentrée marquée également par un renforcement, s'il était encore possible, de la répression interne contre les rares organisations indépendantes, l'association Mémorial qui milite depuis des décennies pour documenter et honorer les victimes du stalinisme, vient ainsi d'être dissoute par une justice manifestement aux ordres. Alors pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir en ligne Aude Merlin. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Alors Aude Merlin, vous êtes spécialiste de la Russie et de l'ex-URSS, chercheuse à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Un mot, si vous le voulez bien, pour commencer sur la situation au Kazakhstan. Avez-vous été surprise par la flambée de violence et la mobilisation qui a fait trembler le régime dans ce pays très autoritaire et qui passait depuis 30 ans pour être l'État certainement le plus stable de la région ?
Alors, on a dit ça aussi du Bélarus, hein, pays le plus stable. Ce que j'aimerais dire en réaction à votre question, c'est que dans l'espace post-soviétique, on a une typologie de régime, alors à l'exception de certains pays qui ont connu des dynamiques de tentatives de démocratisation et des révolutions de couleur comme en Ukraine et en Géorgie, sinon on a quand même une typologie de régime autoritaire, voire très autoritaire, qui repose sur les structures de force conjuguées à une narration de la stabilité et à un contrôle politique. Et alors, évidemment, on peut pas dire, les chercheurs ne peuvent pas dire à quel moment la société va tenter de se mobiliser, mais ce que l'on peut dire de façon quand même assez générique, si je puis dire, c'est qu'à un moment donné, face au contrôle politique, face aux logiques de corruption, face à la nature du régime et à ses pouvoirs autoritaires, face aux difficultés économiques et aux profondes inégalités économiques et sociales qui structurent la plupart des économies de ces pays, il y a un moment où la société se mobilise. Alors, la société, des segments de la société. Alors, on l'a vu au Bélarus, ce qui a été vraiment le déclencheur, ça avait été la façon dont les élections du 9 août 2020 se sont passées, avec à la fois des fraudes massives, mais il y avait eu en 2017 une mobilisation déjà sociale contre la façon dont les chômeurs étaient traités par le pouvoir. Donc il y avait une dimension sociale déjà en 2017. Et au Kazakhstan, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que face à l'augmentation du prix de l'énergie, on a vu une mobilisation. Et cette mobilisation, c'est sûr que du coup, elle conjugue à la fois des questions sociales, c'est-à-dire des logiques d'exaspération, des logiques de survie pour certaines familles, et ensuite des logiques politiques, c'est-à-dire de contestation de la nature du régime. Et on avait vu à Andijan en 2005, donc en Ouzbékistan, un massacre qui était venu aussi après des manifestations à caractère social. Donc en fait, je peux pas dire que j'ai été surprise de ce schéma, de ce scénario. Bon, je ne suis pas spécialiste du Kazakhstan et je ne suis pas de très près la question, donc il faudrait que vous intervieviez un vrai spécialiste du Kazakhstan. Mais si on dézoome et si on observe ce qui se passe dans l'ensemble de l'espace post-soviétique, ça n'est pas surprenant. Les régimes autoritaires sont un petit peu chahutés, et ce qui n'est pas surprenant non plus, hélas, c'est la réponse du pouvoir, c'est-à-dire la façon dont un président n'hésite pas à dire qu'il va tirer sans sommation sur des manifestants. Et la façon aussi dont ces régimes autoritaires, ensuite, pour discréditer toute contestation et toute prise de parole dans l'espace public qui soit une parole critique, qualifient les manifestants de bandits, de terroristes, de petites frappes, de casseurs, et attribuent l'origine de ces mobilisations à une main de l'étranger. Donc ça, c'est intéressant. On a vu comment les choses ont été donc gérées, si l'on peut dire, à savoir par un bain de sang. On a vu des photos avec des gens dans Almaty qui marchaient à côté de taches de sang sur les trottoirs, il y a le visage tuméfié d'un chanteur kirghize là, qui a été diffusé sur les réseaux, il y a eu plus de 8000 arrestations, le nombre de morts, on ne le sait pas exactement, mais il y en a plus de 150, et peut-être ne saura-t-on jamais combien il y a eu de morts, mais... et on sait que après cela, que se passe-t-il ? L'intervention d'une force militaire de l'OTST, c'est-à-dire l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, qui est un mini-pacte de Varsovie, si on peut dire. Enfin, en tout cas, c'est l'alliance sécuritaire créée par Moscou avec comme membres donc, le Bélarus, l'Arménie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan et le Tadjikistan. Et donc, les forces russes sont entrées dans Almaty, 2000 hommes, et donc on retrouve en fait des schémas quand même qui rappellent un petit peu les logiques de souveraineté limitée pendant la guerre froide à l'intérieur du bloc de l'Est, et on retrouve le discours de M. Poutine qui dit très explicitement qu'il ne saurait tolérer aucune révolution de couleur dans l'espace post-soviétique. C'est-à-dire qu'en fait il y a aussi un déni de souveraineté à l'ensemble de ces États par le discours de Moscou.
Alors, Aude Merlin, on le voit, il y a cette intervention de l'OTST, mais majoritairement de la Russie au Kazakhstan. Il y avait eu un soutien aussi du Kremlin au pouvoir de Loukachenko, Bélarus. Il y a aussi des mouvements de troupes depuis quelques semaines, dont on va reparler depuis quelques mois auprès de la frontière ukrainienne. Il n'y a pas le risque que la Russie s'aliène par de telles politiques, des populations qui lui étaient jusqu'alors très proches ?
Mais... évidemment, si on raisonne en termes d'aliénation de population et de soutien, on raisonne dans un contexte où des opinions publiques pourraient exister réellement dans un contexte d'expression libre. Là, d'une certaine façon, en fait, c'est pas fondamentalement le souci de M. Poutine de s'aliéner ou de ne pas s'aliéner des populations. Le souci de M. Poutine, c'est de contrôler sur le plan de la sécurité l'évolution en termes géostratégiques, mais aussi politiques, des pays qui sont autour de la Russie. Alors, en même temps, je comprends très bien votre question. C'est-à-dire qu'il y a une dimension totalement contre-productive, au sens où plus Moscou masse ses troupes à la frontière ukrainienne, plus la population ukrainienne, et là, effectivement, on a l'expression d'une opinion publique, le paysage politique ukrainien est infiniment plus ouvert, plus pluriel, et en un sens plus démocratique, même s'il y a d'énormes problèmes et d'énormes limites. Mais, en tout cas, c'est sûr que là, on a une opinion publique ukrainienne que l'on est en mesure d'évaluer, de mesurer, d'analyser. Et effectivement, plus Moscou masse ses troupes à la frontière ukrainienne, plus la population ukrainienne et les élites ukrainiennes sont tourner vers l'OTAN et vers l'Union européenne dans un espoir de trouver à travers l'OTAN une protection sécuritaire. Enfin, la sécurité, voilà, c'est une question de survie, en fait, que ce soit en tant que pays ou en tant qu'individu. Donc, c'est sûr qu'il y a une dimension contre-productive et que là, il y a une aliénation, comme vous le dites, de la population ukrainienne par rapport à la Russie. Alors, je ne sais pas si on peut généraliser cette question, au sens où, en tout cas, je pense que dans le chef de M. Poutine, ce n'est absolument pas la question qui le préoccupe. La question qui le préoccupe, à mon avis, elle est double. C'est à la fois la question sécuritaire, c'est-à-dire que du point de vue russe, il y a aussi l'expression d'une crainte, bon, alors qu'il faudrait ensuite, évidemment, objectiver, ou dont il faudrait objectiver la rationalité, parce qu'en réalité, l'OTAN ne menace pas la survie de la Russie, alors que les logiques politico-militaires russes menacent la souveraineté ukrainienne. Donc on est quand même dans des logiques qui sont différentes, et je crois qu'il y a une forme de dissymétrie qu'il faut vraiment rappeler. La souveraineté ukrainienne est amputée par l'annexion de la Crimée et par le fait que la DNR et la LNR, c'est-à-dire les deux républiques autoproclamées du Donbass, ne relèvent plus de l'autorité de Kiev. Et aucun territoire de Russie n'a été annexé, et personne n'est venu au sein du territoire de la Russie agiter ou attiser un conflit séparatiste. Hein. On pourra parler de la Tchétchénie autant qu'on veut, mais c'était pas du tout la question. Voilà. Donc oui, bien sûr, il y a un risque d'aliénation, mais je crois que quand on s'appuie sur des structures de force et quand on répond de toute façon à des mobilisations par la répression violente, la question de l'aliénation des populations, elle n'est pas au centre des préoccupations des autorités politiques qui sont partisanes de ce genre de répression.
Alors, Madame Merlin, il y a des négociations là, qui se tiennent actuellement à Genève entre Russes et Américains. Qu'est-ce que ça signifie, ces négociations sur, qu'ont quand même comme objectif principal de parler de l'Ukraine, alors que les Ukrainiens sont pas invités à ce sommet. C'est les Russes qui ont demandé l'organisation de ce sommet. Est-ce qu'il y a une tentative là, du Kremlin de revenir aux grandes heures des sommets américano-soviétiques?
Alors, il est clair que pour Moscou, rien de tel, rien de plus prestigieux en un sens que d'avoir comme interlocuteur Washington. Et donc, évidemment, là, on le voit très bien. C'est-à-dire qu'il y a dans la conception de la politique étrangère russe et dans les coordonnées diplomatiques, en quelque sorte, que Moscou privilégie, la volonté d'abord de travailler en bilatéral. Ça, on le voit systématiquement, c'est-à-dire que le Kremlin ne souhaite pas, et on le voit aussi avec l'Union européenne d'ailleurs, le Kremlin souhaite toujours travailler en bilatéral avec un État. Et évidemment, quand il s'agit des États-Unis, là, on rejoue en quelque sorte une symbolique du monde bipolaire de la guerre froide. Et en ce sens, je suis d'accord avec vous qu'il y a des échos à ces logiques-là. En même temps, on n'est plus dans le contexte de la guerre froide, pour la simple raison qu'on n'est plus dans la compétition de deux systèmes idéologiques, le mur de Berlin est tombé, l'équilibre et la géostratégie européenne a été modifiée, et puis l'Union soviétique s'est effondrée. Et en revanche, évidemment, ce qui est très important, et ça dit tout de l'attitude que M. Poutine a vis-à-vis de l'Ukraine, d'ailleurs il l'a théorisé dans une tribune qu'il a publiée au mois de juillet 2021, c'est-à-dire que pour lui, l'État ukrainien, en fait, n'existe pas. Et donc, il y a un mépris, il y a une ignorance, il ignore superbement M. Zelensky, Kiev et l'Ukraine comme interlocuteurs. Et donc, on a vraiment cette espèce de réflexe et cette volonté de dialoguer directement avec les États-Unis, c'est-à-dire que finalement, on n'intègre pas dans les discussions ceux qui sont les premiers concernés. Et ça, c'est évidemment très symptomatique d'une confiscation de l'agentivité ukrainienne, en quelque sorte.
Merci Aude. Alors, je voudrais également vous proposer de revenir, évidemment, sur un autre aspect qui domine l'actualité de la Russie actuellement, c'est l'offensive, une offensive de plus sur la société civile. Les dernières semaines, on le sait, ont été marquées par la liquidation de l'organisation mémoriale qui luttait depuis la chute de l'URSS pour honorer notamment la mémoire des victimes de la terreur stalinienne. Et malgré le climat répressif en Russie, beaucoup pensaient que le pouvoir n'oserait pas s'attaquer à cette organisation, en tout cas aller jusqu'à la dissolution. Là, vous avez l'impression qu'un nouveau cap a été réellement franchi.
Alors, moi, j'aurais envie de dire en première réaction à votre question qu'il faut toujours vraiment prendre avec des pincettes ces formes d'affirmations qui disent « jamais le Kremlin ne s'attaquera à ». Parce que je crois qu'on est vraiment face à un pays qui est dans un emballement, qui est dans une logique où, en fait, si rien ne l'arrête, objectivement, il n'y a pas de limite intangible, si je puis dire. Et donc, jamais Moscou ne s'attaquera à Mémorial. Alors oui, ça a été d'une certaine façon un mantra qui permettait, pour certains en tout cas, d'essayer de se rassurer. Mais en réalité, quand un régime est comme ça pris dans une dynamique de la crispation autoritaire, qui s'amplifie, d'une certaine façon, ça devient comme rouler à bicyclette. C'est-à-dire que si le régime n'accroît pas les pressions, en fait, il est en quelque sorte pris dans cette logique-là, il est pris dans les rails, il est pris dans la dynamique de cette répression qui va s'accélérant. Donc moi, je ne dis jamais, en tout cas dans le cas de la Russie, jamais le Kremlin ne s'attaquera à, parce qu'on l'a quand même vu au fil des dernières années, tout est possible. Rien n'est à exclure. Combien de personnes ont dit « jamais le Kremlin ne s'attaquera à l'Ukraine, jamais le Kremlin n'annexera la Crimée ». Eh bien, 2014, voilà, un fait est un fait, et ce qui s'est passé, c'est passé. Donc, ce qui est effectivement à souligner, c'est que oui, un cap a été franchi. C'est-à-dire que Mémorial, à la fois par son histoire, si je puis dire, et son historicité, son ancrage sur le temps long, sa création en 1989 par une autorité morale et symbolique de tout premier plan qui était le dissident Andrei Sakharov, quand même prix Nobel de la paix, et inventeur, grand physicien, inventeur de la bombe et grand pacifiste, et qui avait été donc envoyé en relégation par le pouvoir soviétique, qui avait subi les répressions du pouvoir soviétique. Andrei Sakharov, autorité morale et symbolique, de jeunes chercheurs qui avaient créé Mémorial. Donc, il y a quand même une existence au long cours de cette ONG et un prestige, un sérieux, véritablement un sérieux académique. C'est-à-dire que Mémorial, qui est constitué de deux branches principales, qui sont Mémorial International, qui travaille sur l'histoire, et donc qui s'est créé au départ effectivement pour cela, pour documenter tout ce qui s'était passé durant notamment la période stalinienne de répression massive, et l'autre branche étant le Centre des droits de l'homme, et qui se concentre à la fois sur la question des violations des droits humains dans les conflits armés, notamment dans les deux conflits de Tchétchénie, mais qui documente aussi, bien sûr, tout ce qui se passe, et qui documente les prisonniers politiques, en fait, qui dresse une liste des prisonniers politiques. Et donc, oui, cette répression marque un cap. C'est-à-dire qu'effectivement, Mémorial est l'ONG la plus prestigieuse et qui sans doute est la plus connue en Occident de toutes les ONG russes. Et donc, ça prouve que oui, le Kremlin peut très bien s'attaquer, y compris à des symboles qu'on pensait ou qu'on espérait ou que certains voulaient voir comme intouchables.
Alors, il y a eu une onde de choc importante en Occident après la dissolution de cette association. Est-ce qu'il y a eu la même onde de choc en Russie même ?
Alors c'est intéressant parce que souvent on avait l'impression, d'autant que Mémorial a été affublé du stigmate d'agent étranger depuis qu'existe donc cette loi de 2012, et il y avait très souvent en fait la diffusion d'une lecture de la situation disant que Mémorial était très peu connu en Russie. Et en fait on voit quand même que plus d'un tiers de la population russe connaît l'existence de Mémorial. Alors certains ont appris son existence au moment où cette répression a commencé à s'abattre sur Mémorial, de la même façon que de très nombreux Russes avaient appris l'existence d'Anna Politkovskaya au moment où elle a été assassinée, et où justement elle n'existait plus, elle n'était plus en vie, mais son symbole se mettait à exister pour tout un segment de la population russe qui avant ne le connaissait pas. Donc il y a eu une augmentation de la connaissance de l'existence de Mémorial, et sur ces 30% de Russes qui connaissent l'existence de Mémorial, on a quand même une majorité de personnes qui considèrent que ce qui arrive à Mémorial est une répression politique. Donc il y a une lucidité dans la société russe. Alors après, parler d'onde de choc, il faut quand même rappeler le contexte, c'est-à-dire que le pays est de plus en plus répressif, les lois donc, contre l'extrémisme et lois sur les agents étrangers sont devenus des filets avec un maillage tellement serré que, au nom de ces lois, c'est-à-dire en toute légalité, si on se place du point de vue du Kremlin, au nom de ces lois, on peut réprimer tout individu qui viendrait dans une manifestation. Donc une onde de choc, en tout cas, qui ne s'est pas exprimée de façon massive, si ce n'est qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, des Russes prennent la parole. Mais le contrôle est très fort, et ça parfois on n'imagine pas ou pas suffisamment quand on vit en démocratie à quel point c'est compliqué de transformer une émotion en une onde de choc qui serait réellement visible, même si, et comme on a pu le voir, et encore en 2021 au moment de l'arrestation d'Alexei Navalny, on a quand même pu voir des manifestations assez massives en Russie. Donc malgré l'ampleur des répressions potentielles auxquelles s'exposent les manifestants, il y a encore des milliers et des milliers de Russes qui sont prêts à se mobiliser. Alors ce qu'il y a aussi, c'est que les verdicts finaux datent du 29 et 30 décembre 2021, et c'est au moment de la trêve des fêtes de fin d'année, et donc où le pays s'arrête. Donc c'est aussi compliqué sur ce plan-là pour le moment de parler d'onde de choc. Mais ce qui est très intéressant, c'est de suivre quand même ce que nous dit l'Institut Levada de la perception qu'ont les Russes de Mémorial.
Et cette dissolution, Aude Merlin, elle intervient de Mémorial, elle intervient après la condamnation aussi, également tragique, inique, de Youri Dmitriev, cheville ouvrière de cette organisation qui menait un travail très courageux en Carélie sur les charniers de l'art soviétique, et un travail qui dérangeait le pouvoir pour la relecture de l'histoire qu'il permet.
Tout à fait. Alors, Youri Dmitriev est un grand historien. La communauté mondiale des historiens le soutient. tout cas tous les historiens qui travaillent sur la terreur stalinienne, qui travaillent sur les purges, qui travaillent sur l'Union soviétique, Nicolas Werth en tête. Donc, sa légitimité en tant que chercheur, en tant qu'historien et en tant qu'académique, en fait, hein, puisque dans un pays autoritaire, parfois on a plus d'expression de liberté académique au sein d'ONG que dans certains sérails officiels de l'académie. Et oui, donc c'est un historien qui est d'une très très grande qualité scientifique, qui a analysé à Sandarmor, qui a travaillé de très nombreuses années sur l'identification des victimes de purges opérées en 1937. Purges que le pouvoir russe attribue, enfin essaye de maquiller et de déguiser en exécution par les forces finlandaises pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce qui est tout à fait différent, en fait. Alors que là, M. Dmitriev, lui, a prouvé qu'il s'agissait d'exécutions commises par l'État soviétique pendant la Grande Terreur. Il a été condamné en 2016. Il y a eu donc des allers-retours judiciaires entre condamnation et cassation, mais de fait, il est, à l'exception de quelques mois en 2018, il est arrêté, il est en réclusion, et maintenant, et donc sa condamnation était de 13 années, il y a l'année dernière, et là, depuis quelques jours, en effet, comme vous le rappelez, 2 ans de plus ont été requis, donc il est condamné à 15 ans de réclusion. Et quand on connaît son âge et son état de santé, c'est évidemment absolument tragique pour cette personne qui est une personne lumineuse. Et les actes d'accusation qui lui ont été mis sur le dos sont absolument infâmes et sont absolument insensés, comme le disent les historiens internationaux qui le connaissent très bien.
Aude Merlin, une dernière question, si vous le voulez bien. On vient de célébrer, de commémorer, de marquer en tout cas le 30e anniversaire de la chute officielle de l'Union soviétique. C'était le 25 décembre 1991. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de la société civile russe et du vent de liberté qui avait soufflé sur la Russie et presque l'entièreté de l'Union soviétique de l'époque aujourd'hui?
Alors c'est sûr que là, vraiment, ce qui arrive à Mémorial, c'est le coup de massue. Pour tout ce que ça incarnait et pour le travail réel effectué. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y ait plus aucun espace en Russie pour la société civile. Bon, d'abord, il y a aussi un renouvellement générationnel, il y a un renouvellement des pratiques, l'indignation et la lucidité n'ont pas disparu, en tout cas dans certains segments de la société. C'est sûr que les conditions sont de plus en plus difficiles. C'est sûr que l'étau se resserre et c'est sûr qu'il y a une dimension, évidemment, qui est très, très, très décourageante pour toutes les autres ONG. En même temps, on sait que, par exemple, il y a le comité contre la torture de Nijni Novgorod qui, tant bien que mal, continue à travailler. On a également l'ONG Sava de Vierkhovski qui continue à travailler. Enfin, on voit bien que ces ONG, évidemment, très souvent, passent un temps fou à se défendre en justice lorsqu'elles sont affublées de ce stigmate d'agent étranger et qu'ensuite le parquet, la procuratura vient leur chercher, entre guillemets, si je puis dire, des poux dans la tête en venant traquer sur une page internet un oubli malencontreux de la mention d'agent étranger, puisque les ONG qui ont été donc désignées comme agents étrangers par le ministère de la Justice russe ont le devoir d'indiquer sur toutes leurs publications c'est l'information qui suit est diffusée par un acteur donc qui est taxé d'être agent étranger. Et donc si par malheur sur une page internet ou sur un poste vous oubliez de le mentionner et si la procuratura a décidé de vous fragiliser voire de vous fermer, eh bien elle va aller traquer le moindre oubli malencontreux. Donc c'est sûr que les conditions sont devenues très 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 difficiles. Il y a beaucoup d'acteurs de la société civile qui ont dû quitter la Russie, beaucoup sont en Lituanie, certains sont en République tchèque, certains sont en France, en Belgique. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de dispersion de ces acteurs en dehors du territoire russe, d'autres qui restent. Et donc ceux qui sont partis essayent de continuer à faire vivre une société civile hors sol, si je puis dire, mais quand même une société civile liée à la Russie, et ceux qui restent tentent très courageusement de continuer leur travail. Mais c'est sûr que le rétrécissement est absolument saillant.
Eh bien, je vous remercie très chaleureusement, Aude Merlin, d'être revenu pour nous sur ce contexte. Hein, on l'a vu particulièrement compliqué en Russie et dans sa périphérie. Aude Merlin, je rappelle que vous êtes spécialiste de la Russie et de l'ex-URSS et chercheuse à l'Université libre de Bruxelles. Merci encore d'être intervenu sur nos ondes.
Merci à vous, meilleurs voeux.